DW, le club de l'auditeur.
Bonjour la DW, moi c'est Charles Depuy Ouagadougou. Je crois que pour vivre dans la fraternité et surtout dans la compréhension, il faut la diversité des points de vue. Et il faut la cohésion entre les filles et les fils. Et surtout dans le contexte africain, il faut le partage de la gestion de la chose publique, écouter les uns et les autres. Je crois que c'est ça qui manque partout en Afrique et dans mon pays, le Burkina Faso. Certains croient qu'ils ont raison et les autres ont tort. Je crois que c'est ça qui divise profondément notre pays. Mais je crois que les initiatives sont là. Les gens font la promotion de la cohésion sociale. Il y a des organisations de la société civile qui prônent le dialogue entre les communautés. Il y a toutes sortes d'activités. Mais je crois que individuellement, chacun doit faire de son mieux. Dans sa commune, dans son village, là où il se trouve, il n'a qu'à promouvoir le dialogue, la compréhension et surtout la tolérance. Voilà, c'est ça qui nous manque, la cohésion qui peut nous aider partout où nous nous trouvons. Merci et bonne suite.
C'est ce 4 février, la journée internationale de la fraternité humaine. D'abord proposée par l'Égypte et les Émirats arabes unis, elle a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 21 décembre 2020. Depuis sa première célébration, le 4 février 2021, la journée internationale de la fraternité humaine a reçu le soutien de plusieurs personnalités, dont le grand imam d'Al-Azhar, cher Ahmed El-Tayeb, le pape François et le président des États-Unis, Joe Biden. L'objectif de cette journée, c'est d'appeler les peuples et les dirigeants internationaux à s'engager sérieusement pour répandre la culture de la tolérance, le pluralisme, le respect mutuel et la diversité des religions et des convictions, et ainsi faire prospérer la fraternité humaine. Alors, comment y parvenir dans un monde déchiré par tant de conflits, de violences et de propos haineux? On en parle dans cette édition du Club Mireille Drone au micro. Bienvenue à toutes et à tous. Allô?
Oui.
Oui, bonsoir, c'est Mireille Drone de la Deutsche Welle. Je vous dérange peut-être?
Non, pas du tout.
C'est simplement parce que vous avez répondu à ma question sur la journée de la fraternité.
Oui.
Voilà, et vous m'avez dit que chez vous, au Mali, il y a des espaces d'écoute et de gestion des conflits. Alors, comment ça se présente?
C'est dans les communautés. Par exemple, chez nous, dans la communauté Peul, c'est un exemple.
Oui.
Les gens se réunissent, c'est par hiérarchie, quoi. Du plus âgé au plus petit. Et maintenant, on discute des problèmes du village, de la communauté. Et puis, les gens, à l'issue de ces rencontres, on fait des recommandations pour la bonne marche, pour l'entente, pour la cohésion sociale au sein de la communauté.
Oui. Et qui est-ce qui mène, on va dire, la discussion, les négociations, les échanges? Est-ce que ce sont les anciens? Est-ce que ce sont des gens qui ont des problèmes, qui demandent rendez-vous pour pouvoir parler de ce problème-là lors de la prochaine rencontre? Comment ça se passe concrètement, pour s'imaginer un petit peu?
Oui, c'est-à-dire que, madame, il y a les griots. Les griots, c'est une casse, quoi, des hommes. C'est-à-dire, c'est eux qui sont chargés de tous les us et coutumes dans la communauté, par exemple les mariages, les baptêmes, etc. Alors s'il y a des conflits aussi, c'est eux qui parlent, c'est des bouches qui sont habilitées à parler aux gens, mais sous la responsabilité des anciens, des doyens.
Et voilà. Donc chacun dans la communauté qui a un problème vient consulter le doyen. Et il y a une rencontre qui est organisée pour parler ensemble et trouver un moyen d'aplanir un conflit.
Voilà. C'est-à-dire un problème qui n'est pas résolu au sein de la communauté, ça veut dire que c'est très grave. Sinon, c'est eux qui résolvent tous les problèmes au niveau de la communauté. Hein, les problèmes de faits sociaux,
de cohabitation,
et de conflits.
Oui.
Voilà, c'est ça. C'est eux qui parlent. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont écoutés au sein de la communauté, ils sont écoutés.
C'est-à-dire que leur autorité fait en sorte que leurs conseils sont suivis.
Oui, leurs conseils sont suivis. Hein? Mmh. Parce que quelqu'un qui n'écoute pas ce qu'on dit, ce que les anciens disent, c'est comme recommandation, c'est comme tu te fais exclure de la communauté. Voilà. C'est une autorité morale au sein de la communauté et tout le monde. Et les recommandations sont partagées, sont prises en compte.
Alors vous disiez que ça, c'était au sein d'une communauté intracommunitaire. Oui. Qu'est-ce qu'il en est entre différentes communautés? Vous parliez tout à l'heure là des peuples, mais qu'est-ce qu'il en est des conflits intercommunautaires? Je pense par exemple à des conflits qui sont très récurrents en Afrique entre éleveurs et cultivateurs, par exemple, quand ça oppose deux communautés différentes. Est-ce que vous avez là aussi un système de gestion des conflits?
Oui, c'est-à-dire ce problème-là entre éleveurs et agriculteurs, c'est un problème qui est ancien.
Oui, bien sûr.
Bon, et entre les communautés elles-mêmes, il y a des voies de pacification de ces conflits-là. C'est-à-dire, sauf si on instrumentalise, parce que ça aussi, c'est une bonne forme de... Les gens sont instrumentalisés et le problème prend une autre ampleur. Entre Evel et Victor, c'est des gens qui cohabitent ensemble, ils se connaissent. C'est-à-dire, il n'y a pas un problème qui est insurmontable au niveau au sein de la communauté.
Mmh. Voilà. Bon, il y a quand même des conflits, évidemment, dans le Nord, par exemple, dans les différentes communautés, évidemment, dans le Nord du Mali, ça c'est clair.
Bon, ça c'est un problème, c'est des phénomènes nouveaux, quoi. C'est des situations nouvelles qui sont venues s'agripper et qui prennent une autre tournure. Mais ça n'a rien à voir avec la cohabitation, la cohésion sociale qui existe. Les gens vivent ensemble depuis des milliers d'années et il n'y a pas de problème. Voilà, tous les problèmes se résolvent au sein de la communauté.
Par le dialogue.
Ouais. Par le dialogue.
Et de façon générale, quand vous voyez aujourd'hui bon, les esprits qui s'enflamment, surtout sur, avec les réseaux sociaux, on a vraiment l'impression qu'il y a parfois des langages de haine. Comment vous pensez qu'on peut essayer d'apaiser les esprits pour qu'il y ait réellement un dialogue là aussi et pas cette haine qui soit cultivée en fait par ce biais-là?
Bon, moi je pense qu'il faut prôner toujours le dialogue sur toute l'échelle quoi. Hein, au niveau des communautés, au niveau des quartiers, au niveau des villages. Parce que ici, nous avons une société multiculturelle, diversifiée, où chacun a une culture, a son ethnie, mais c'est une symbiose. Les gens vivent ensemble. C'est comme ça qu'on a construit cette nation ici. Les gens vivent ensemble. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a des nouveaux modes de communication, les réseaux sociaux, où les gens s'agitent. Les gens, excusez-moi du terme, les gens disent n'importe quoi,
oui.
Mais ça n'entache en rien la cohésion sociale qui est là. Hein, parce que les gens, par le biais du mariage, nous sommes unis quoi, ici.
Il y a le cousinage aussi chez vous, non?
Il y a le cousinage.
Les plaisanteries à cousinage.
Donc les gens se taquinent, ça ne peut pas aller loin. La haine, là, elle ne peut pas aller comme ailleurs. Là. Ici, au Mali, elle ne peut pas avoir une source ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient quoi, entre les communautés.
Même dans la partie nord du pays?
Bon, c'est propre à tout, sur toutes les angles du territoire. Hein. C'est propre au Mali, que ce soit au nord, au sud, à l'ouest. Mais c'est-à-dire d'autres formes de violence qui sont nées par ailleurs, voilà, qui sèment un peu le doute dans l'esprit des gens ailleurs.
Oui.
Sinon, entre Maliens ici, il n'y a pas de problème. Quelle que soit l'ethnie ou le lieu où tu résides, c'est ça notre valeur ici. La cohésion sociale, l'entente, voilà.
Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup et restez-nous fidèles alors.
Oui, il n'y a pas de problème.
Au revoir. Bye.
Au revoir.
Inquiet, Boubacar de Bamako regrette, lui, la folie du monde.
Quelle bonne idée, fraternité internationale. Mais très souvent, ça se limite au niveau des mots, hein, dans les pratiques. C'est autre chose. Qui dit fraternité dit tout. Nous sommes entre frères et sœurs dans ces bas mondes. Qui fabrique ces armes, ces bombes lourdement armées dans le ciel? C'est fait pour tuer l'homme, la race humaine. Donc l'idée n'est pas mal en soi, mais l'usage, ça reste à désirer. Il faut dire que nous sommes en train de faire tout, sauf ce que c'est que l'humanité. L'objectif principal, c'est les bénéfices, les soucis premiers. Donc l'être humain de plus en plus n'a pas sa place dans cette société et le respect dans la société humaine est fonction de la position de bien matériel que l'individu a. Donc c'est l'être social qui détermine la conscience sociale. Nous sommes dans un bateau qui de plus en plus est en train de perdre des boussoles et le commandant est fou. Donc nous nous donnons de plus en plus un sens profond à l'être humain, à l'essence de la race humaine. Ensemble nous trouvons reçu, nous sommes ouverts au dialogue, nous sommes ouverts à accompagner les pays du monde entier. On est ensemble, merci vraiment, bonsoir.
Pour favoriser la tolérance, le pluralisme, le respect mutuel et la solidarité, il faut lutter d'abord contre l'individualisme, l'égoïsme, les haines, la corruption, la cupidité, le fanatisme religieux et le racisme, appelle Bewezima de Lomé au Togo. Aminou du Niger est bien d'accord, pour favoriser la tolérance, le pluralisme, le respect mutuel et la solidarité en ces temps-ci, il va falloir nous accepter dans nos différences et nos diversités. Nous sommes nés humains, nous sommes frères, bien que nous soyons issus de différentes communautés, écrit et il demande aux acteurs qui ont la charge de réunir l'humanité autour de ses valeurs de faire montre de pédagogie d'exemple. Nous devons faire du monde un seul village, une même famille, écrit-il. Du Niger aussi, Abdoulaye de Birningaoré suggère de valoriser le cousinage à plaisanterie. La tenue périodique d'événements sportifs favoris, comme la lutte traditionnelle, culturelle, le football, etc., de mettre l'accent sur la culture à travers l'organisation d'événements culturels tels que la course allée pour les éleveurs nomades, le Bianou, une manifestation annuelle des populations de l'Aïr à Agadez, la tenue de festivals de danse et musique, en remettant à cette occasion des prix aux meilleurs festivaliers. Il ajoute aussi la fête des pêcheurs, qui est célébrée pour les riverains du fleuve, la course hippique, la course de chameaux, la course en pirogue, etc. Ce sont autant de manifestations qui favorisent la cohésion sociale, poursuit Abdoulaye. Bref, chaque pays ou contrée a sa spécificité de cérémonies et de jeux organisés par les habitants en guise de raffermissement des liens intra-groupes ou intergroupes vivant sur un territoire donné, conclut-il.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus le trottoir de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part.
Benjamin, du Congo-Kinshasa, se plaît à rêver d'un monde où l'on vivrait cette fraternité sincère. Hélas, les conflits nous accablent dans ce monde qui pourrait être un paradis, mais l'hypocrisie a pris le dessus, et si l'on se réconcilie aujourd'hui, on se tire dessus demain, regrette-t-il. Le danger, c'est que l'on ne sait pas où l'on va en semant la terreur, souligne Ronis du Cameroun.
Nous voyons que le monde est déchiré par des conflits, des violences, des propos haineux, des exactions. Déjà, nous devons inculquer la valeur humaine et nous devons avoir un esprit d'humanisme dans notre cœur afin de pallier, voire même d'éradiquer toutes ces imperfections dans la société. Nous sommes souillés par nos actes sociaux où l'on ne sait où on va en semant la terreur. Ça, c'est une expérience personnelle expérimentée dans ma localité, dans mon contexte. Et dans le contexte international où nous vivons dans une guerre exacerbée, dans la guerre des tribus, dans la guerre territoriale et dans toute forme de guerre. En cette journée internationale de la fraternité humaine, nous devons attirer l'attention du public sur le bienfait, sur l'esprit de l'humanisme. Comment vivre ensemble? Où, à travers la culture religieuse, on peut discerner le vrai du faux. Mais les différentes religions actuelles ne cherchent pas le pragmatisme, mais le théorisme. Parce que déjà, quand ils sont dans l'église, ils théorisent les choses, mais la pratique sociale est différente. Ils partent, ils créent la guerre interreligieuse, sans toutefois penser à ce qu'ils ont eu à dire à l'église, ou encore dans les mosquées que l'amour du prochain est bien. On nous enseigne à l'église, il faut aimer son prochain comme soi. Mais dans la société, nous avons des problèmes avec les voisins. Nous créons la violence chaque jour avec nos prochains. Est-ce que cela vise le respect? Des exigences religieuses, non. Il est temps aujourd'hui pour les leaders religieux de mettre dans la conscience des fidèles qu'ils doivent pratiquer. Deuxièmement, sur le plan social, nous avons plusieurs institutions sociales. Nous pouvons faire des regroupements sociaux pour faire des workshops sur la question de la médiation de la guerre. Et il faut aussi aiguiser sur la conscience humaine en montrant les affres de cette violence, en montrant les conséquences de cette violence afin qu'ils prennent conscience et voient que la violence n'est pas bien.
Abdourahmane, également du Cameroun, apprécie cette question sur la fraternité. De nos jours, il est pratiquement impossible de trouver un groupe homogène composé d'une seule ethnie. Partout où l'on va, on est appelé à intégrer une nouvelle communauté différente de la nôtre. C'est pourquoi il est très important de semer la tolérance, le respect mutuel, la solidarité entre les communautés pour favoriser le pluralisme et éviter les conflits intercommunautaires. Il faut aussi veiller à éviter la corruption, le tribalisme et le favoritisme, suggère-t-il. Latif de Lomé plaide aussi pour des actes concrets, pour un véritable vivre ensemble et permettre le développement. Il s'explique.
Moi, je privilégie le partage et l'aide. Depuis l'indépendance, on parle de l'aide au développement en Afrique. On est toujours sur cette histoire de l'aide au développement et l'Afrique ne se développe jamais. L'Afrique a des matières premières, on ne sait pas comment et pourquoi l'Afrique n'arrive pas à mettre ces matières premières en œuvre pour se développer. Donc tous les jours, on dit l'aide au développement et sommet Afrique-France, Afrique-Italie. Bon, tout le monde veut étendre son influence sur l'Afrique. L'Afrique ne profite de rien. Les Africains sont toujours à la queue C'est des gens frustrés. Quand vous allez sur les réseaux sociaux maintenant, vous voyez comment les gens sont déchaînés. Les gens disent que bon, c'est parce que tel nous fait ci, nous fait ça. On ne comprend rien. Au même moment, de l'autre côté, il y a d'autres qui se développent. Or, nous sommes sur la même planète Terre. Mm. Comment se fait que les gens n'arrivent pas à aider d'autres, ou bien c'est d'autres qui n'ont pas la volonté de se faire aider pour se développer? Le monde est déséquilibré, si bien que le déséquilibre ne peut jamais apporter la paix.
Donc, il faudrait qu'on arrive à aplanir ce conflit entre puissants et moins puissants, ce conflit dû à la domination.
Et il faudrait que dans notre monde, le plus faible se sente à l'aise aux côtés du plus fort. Le plus faible se sent épanoui aux côtés du plus fort. Mais force est de constater que nous sommes dans un monde où, bon, ce n'est pas ça. Il y a de l'injustice. Il y a de l'exploitation. Mm. Bon, ceux qui sont exploités, ceux qui sont victimes de l'injustice, à mon avis, ils ne font rien pour que cela change aussi. Mm. Et les autres aussi, évidemment, ne font rien. Donc le monde est toujours comme ça. C'est ça qui crée une crise permanente entre les puissants et les pauvres.
Oui. Mais il y a aussi des conflits, on va dire, quelquefois entre États, même en Afrique, sur le continent par exemple, ou ailleurs évidemment dans le monde. Et donc même à l'interne, est-ce qu'il y a un dialogue? Vous évoquiez le dialogue interreligieux par exemple. Est-ce qu'il y a chez vous par exemple un dialogue qui essaie de calmer, on va dire, un peu les esprits, d'appeler à plus de compréhension, de tolérance les uns vis-à-vis des autres?
Et surtout lorsqu'il s'agit de Dieu, lorsqu'on met Dieu devant, tout le monde est conscient que Dieu est amour. Tout le monde le proclame. Mais ça ne transparaît pas dans les actes que les uns et les autres posent.
Bon, dans la vie de tous les jours, en dehors des lieux de culte.
Oh oui, en dehors des lieux de culte. Mmh. Dans les lieux de culte, vous pouvez vous saluer, mais hors lieux de culte, vous devenez bon, des adversaires, voire des ennemis. C'est pour ça que je salue l'Église catholique qui a pris l'initiative au Togo et a appelé les autres à un dialogue interreligieux. Il faut que les uns et les autres évitent de faire des prêches enflammées. Dieu n'a jamais fait de dicter à quelqu'un que moi je suis ci, je suis ça. Donc, nous sommes tous membres fidèles des religions importées, même si d'autres ne veulent pas qu'on dise que les religions sont importées. Donc, nous devons être plus tolérants les uns vis-à-vis des autres, surtout quand nous adorons un Dieu qu'on dit qu'il est seul et unique. Si nous sommes tous fils de Dieu, pourquoi ne pas nous donner la main, ne pas être compréhensibles les uns avec les autres?
Est-ce qu'il y a des initiatives en ce sens, justement, à l'occasion de cette journée de la fraternité ou même au cours de l'année? Est-ce qu'il y a des rencontres interreligieuses, par exemple?
Bon, c'est de constater que le dialogue interreligieux, on ne sent pas ça au sein de la population. C'est entre les autorités religieuses des différentes congrégations qui se réunissent pour ces dialogues. Mais au sein de la population, quand vous approchez quelqu'un qui est d'une obédience, la manière dont il traite les autres, bon, il n'y a pas la tolérance. Au sein de la population, il y a la méconnaissance, il y a l'ignorance. Les uns ne connaissent pas la religion des autres, ils ont des a priori, c'est tout, mais ils n'ont pas étudié. Parce que pour critiquer quelqu'un, par exemple, il faut connaître ce qu'il fait. Beaucoup ne connaissent pas la religion de leur prochain, mais ils aiment les critiquer. Et oui, c'est ce qu'il y a dans toutes les religions. Si vous approchez les musulmans, par exemple, la manière dont ils traitent les chrétiens, vous allez chez les chrétiens, vous voyez que, bon, eux aussi, ils ont une autre manière de traiter les musulmans. C'est à travers les a priori.
Oui. La méconnaissance, l'ignorance fait qu'on se méfie parce qu'on a peur de l'autre, au lieu d'aller vers l'autre et d'essayer de le comprendre, en fait.
Et puis, surtout, les uns et les autres pensent que Dieu, c'est pour eux. Mmh. Si vous n'êtes pas dans ma religion, donc vous n'êtes pas fils de Dieu.
Mais vous écriviez aussi que vous avez l'impression que ça vient du fait que les hommes, en fait, ont un penchant irrésistible pour la domination. Est-ce que vous pensez que s'il y avait un petit peu plus de femmes au pouvoir dans ce monde, qu'il y aurait moins cette tendance à vouloir dominer tout le monde?
Bon, en disant les hommes, moi, je pensais aux hommes...
Avec un grand H, oui, oui, l'humanité, oui, oui.
Avec grand H. Mais bon, quand même, on a des exemples que lorsque les femmes sont au pouvoir, quand même, ils gèrent le pays avec beaucoup plus de douceur. Et il y a moins de conflits entre les États lorsque les femmes sont au pouvoir. Vous savez que les femmes, généralement, c'est la sensibilité. Puisque les femmes, bon, la femme, c'est la mère de l'humanité. Donc, quand la femme a le pouvoir, moi, je pense que les choses ont tendance à se passer bien. Et je suis dans un quartier de Lomé, ici, où on a amené une femme commissaire. Je pense que les choses sont en train de bien se passer dans ce commissariat. Elle est déterminée à lutter contre l'insécurité. Elle organise des patrouilles et autres là.
Et elle est respectée, donc.
Elle est respectée. Les hommes qui travaillent avec elle aussi la respectent. Tout semble aller dans le bon sens.
Voilà quelque chose d'encourageant alors.
Ah oui.
Très bien. Latif, je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup Mireille.
Et à bientôt. Merci. Bon courage à vous.
Ah, merci beaucoup.
Bye.
Au revoir.
Bien vrai que le monde est divisé, observe Jean-Pierre du Togo également, et il précise que dans son pays, il existe des émissions à la radio et à la télévision qui visent à sensibiliser sur la citoyenneté, la solidarité et la tolérance. Sans elles, dit-il, nous n'aurons pas la paix.
Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
Baba du Mali plaide, lui, pour une redistribution équitable des richesses. C'est le meilleur moyen pour renouer le dialogue. Mais hélas, on a davantage investi dans les discours qu'agi pour lutter contre les inégalités sociales, note cet internaute. Amiel, dans le sud du Tchad, est bien d'accord. Et si la journée de la fraternité n'est pas célébrée ce 4 février au Tchad, une journée semblable de cohabitation pacifique se tient tous les ans en novembre pour sensibiliser sur le vivre ensemble.
Tous les 20 novembre, il y a une organisation, c'est-à-dire une journée nationale de cohabitation pacifique.
Oui.
Donc, les chrétiens, les musulmans se réunissent ce jour-là. Ils organisent la prière dans les lieux publics, dans toutes les villes du Tchad.
Oui.
Des prières pour la nation, des prières pour la cohabitation, sur tous les sujets de l'unité, de vivre ensemble, tout ça.
C'est
donc,
ça.
Il y a les églises catholiques d'un côté, les églises protestantes d'un autre côté, et puis ceux de l'islam d'un autre côté aussi. Donc, il y a à peu près trois entités qui se réunissent dans les lieux publics là et qui organisent des prières à ce sujet.
Et est-ce qu'il y a aussi un réel échange, un dialogue interreligieux et interculturel en faveur justement de la tolérance, du respect mutuel, de la solidarité?
Oui, ce sont des moments d'échange, de partage. Il y a des scènes passées aussi, des petites scènes, des gens se réunissent pour faire le théâtre. Il faut des mises en scène entre musulmans, chrétiens ou entre arabes.
Contre ? Allô ? Allô ?
Oui, Mireille.
Oui, on a été coupé. Donc vous disiez ?
Oui, donc j'ai dit, ils font des mises en scène.
Oui.
Et puis des scènes qui parlent des conflits entre éleveurs et agriculteurs, des conflits interreligieux, et ainsi de suite. Ils font des mises en scène, après ils font la réconciliation dans les scènes-là.
C'est
donc
ça.
Pour prouver vraiment la cohabitation, pour prouver également le vivre ensemble, tout ça.
Et vous avez l'impression que ce genre de démarche arrive à porter ses fruits et à faire réfléchir en effet certaines personnes qui sont impliquées dans ces conflits-là?
Oui, certainement, parce que là, bon, pour les plus âgés, ils sont marqués par les événements d'avant.
Oui.
Mais pour les plus jeunes, là, c'est vraiment une occasion pour eux de faire la vraie cohabitation.
C'est-à-dire, vous voulez dire que, bon, chez les anciens, on n'a pas
voilà,
forcément la rancune, mais le souvenir de ce qui s'est passé, l'adversité est encore voilà. Ancrée, tandis que pour les jeunes, on peut peut-être prévenir.
Voilà, les jeunes, c'est vraiment, ça a changé beaucoup de choses. Ils arrivent à rester ensemble, à sortir, à faire tout ensemble. Mais pour les vieux, ils sont marqués. Les vieux, il y a encore des traces, des cicatrices, c'est comme des marques, pas, je ne peux pas dire marques indélébiles, mais c'est comme ils sont marqués par des événements qui, ce n'est pas facile d'oublier aussitôt.
Oui.
Mais pour les jeunes, ça va. Parce qu'ils sont tous ensemble à l'école et puis eux, ils n'ont pas vécu ces événements et entre eux, ils se partagent la fraternité, ils se partagent les connaissances, ils se partagent l'amour. Ils sont plus soudés et plus collaboratifs que les plus anciens, qui se rétractent un peu ou qui se réservent un peu.
Oui. Et donc, on peut, avec les jeunes, plutôt prévenir ce genre de conflit pour qu'ils n'arrivent pas d'abord. En amont.
Voilà, avec les jeunes, c'est possible. C'est quand ils sortent, ils s'éclatent, ils se mettent ensemble, mais quand ils repartent quelquefois, les vieux leur disent, mais attention, méfiez-vous de vos frères là, vos frères, par exemple, les chrétiens, ils disent, méfiez-vous de vos frères en grand boubou, et puis eux, méfiez-vous de vos frères chrétiens là, attention, donc ils mettent encore les idées comme ça, mais les jeunes sont quelquefois décidés de vivre ensemble, d'être ensemble, et de s'éclater ensemble, de reconstruire ou construire ensemble, quoi.
Oui, les jeunes générations sont plus tournées vers l'avenir et veulent oublier les vieux conflits et les rancunes.
Oui, oui.
Vous avez l'impression qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait avec les nouvelles générations?
Il y a vraiment une ouverture à ce niveau. Sauf que quand il y a un petit événement qui se vit ou qui passe, on revient rapidement à cette ségrégation ou à cette séparation. Ou c'est comme si les idées là, des anciens là, reviennent. où les conseils, les mauvais conseils des anciens reviennent comme ça.
Ressurgissent.
Quand un événement.
Oui.
Quand un événement, on a l'impression qu'on est à deux camps.
Mmh.
Mais quand il n'y a pas d'événement, on revient à zéro, on est vraiment quitte, on est très bien revenu à la normale.
Ouais, quelquefois, une étincelle peut remettre le feu aux poudres.
Voilà.
Donc c'est difficile. Et selon vous, donc, quelle serait la meilleure méthode pour plus de tolérance, de fraternité dans ce monde, pas seulement chez vous, mais de façon générale?
De façon générale, si les anciens acceptent, en tout cas que les jeunes se marient entre eux, s'il y a un mariage entre chrétiens et musulmans, nord-sud, en tout cas entre les Tchadiens, s'il n'y a pas de barrière, s'il n'y a pas un Tchadien plus privilégié ou une Tchadienne plus privilégiée ou plus chère que l'autre, ça, je crois que ça va être bien. Si seulement si aujourd'hui un musulman se marie à une chrétienne, ou un chrétien se marie à une musulmane, c'est que c'est fini, c'est bon. Les gens, on ne peut pas se créer de ces problèmes-là. Ça va être vraiment très inutile. Mais c'est à ce niveau-là.
Oui.
Je vois que c'est ce point-là, il faut s'entendre dessus.
Qu'il y ait des intérêts communs et puis aussi une justice, en fait, sociale, on va dire aussi, donc,
voilà,
qui a plani,
voilà.
Qui fait que les uns ne soient pas jaloux des autres, en fait.
Voilà, ça, il le faut.
Ouais. S'il y a plus d'équilibre et de justice sociale, ouais.
Sociale,
et de mélange, donc, intercommunautaire.
Voilà.
Très bien. Amiel, je vous remercie et bon courage.
Merci.
Allez, bye.
Bye, bye. À très bientôt.
Ah, c'est tellement important de dialoguer toujours, s'exclame un héros de Dakar. Car même dans la pire des guerres, il faut bien finir autour d'une table pour s'entendre. Moi, j'invite les grandes puissances à dialoguer et éviter le chaos dans le monde. Il faut nous lever pour dire non à la guerre. Nous n'avons pas besoin de ça. On a besoin de paix, de santé, de développement, conclut-il. Voilà, on se quitte pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast, comme tous nos programmes, vidéos, concours et j'en passe, sur notre site internet. Notre adresse, dw.com/français sans cédille. Excellent week-end à toutes et à tous et à très vite. Au revoir.